On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Hantavirus, une mystérieuse maladie à bord d'un bateau de croisière. Un texte de Camille Lopez, paru le 7 mai 2026 dans les as de l'info. En ce moment, les yeux du monde entier sont rivés sur le MV Ondius, un bateau de croisière de luxe qui navigue sur l'océan Atlantique. C'est parce qu'à son bord, un virus très rare a fait 3 morts et plusieurs malades. Alors, le bateau a été immobilisé pendant plusieurs jours et ses passagers attendent maintenant d'être évacués de manière sécuritaire. Voici ce qu'on sait. Je te rassure tout de suite, avant même que tu commences ta lecture, les risques de transmission au Canada sont très faibles. Même si cette nouvelle est impressionnante, il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau de croisière? Le 1er avril, une croisière de luxe a quitté l'Argentine, en Amérique du Sud, pour ce qui devait être un voyage d'un mois vers le Cap-Vert, un pays d'Afrique. À bord du bateau, appelé le MV Ondius, 150 personnes provenant de 23 pays différents, dont le Canada. Mais samedi dernier, on a appris que 3 de ses passagers étaient malheureusement morts d'un hantavirus, une famille de virus très rares qui peuvent être mortels. Je t'en reparle un peu plus bas. Dimanche, le bateau a jeté l'ancre au large du Cap-Vert, où il n'a pas bougé pendant 3 jours. Mais les passagers ne pouvaient pas débarquer. Une équipe médicale portant de l'équipement de protection est montée à bord pour évaluer les risques et surveiller la situation sur le bateau. Elle travaille avec l'Organisation mondiale de la santé, une branche de l'ONU, dont la mission est de veiller à la santé de la population. Mercredi, 3 personnes malades ont été évacuées du bateau pour recevoir des soins. Les autres passagers ne présentent aucun symptôme du virus. La même journée, le navire est finalement reparti vers les îles Canaries, qui n'ont vraiment pas envie d'accueillir ce bateau. Il a été entendu que les passagers devront se rendre directement dans un avion qui les transportera dans leur pays respectif. Ils seront examinés avant de pouvoir rentrer chez eux. Certains passagers ont quitté la croisière avant que le virus soit détecté. Ces personnes sont surveillées de très près. Par exemple, 3 Canadiens sont de retour au pays, mais sont présentement en isolement. C'est quoi un hantavirus? Il s'agit d'un virus qui peut se retrouver dans l'urine, les excréments et la salive des souris et des rats infectés. Quand les humains l'attrapent, c'est généralement parce qu'ils ont respiré ces substances. D'habitude, les humains ne peuvent pas se contaminer entre eux. Un hantavirus n'est vraiment pas aussi contagieux que la gastro ou la COVID-19, par exemple. Le problème, c'est qu'il peut s'attaquer au système respiratoire et aux reins. Les infections peuvent être mortelles et il n'existe pas de remède. Par contre, elles sont très rares. Au Canada, 4 à 5 cas sont confirmés chaque année selon le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. Pour en être sûr à 100%, j'ai vérifié auprès d'une pédiatre infectiologue, spécialiste des infections, la docteure Esther Vaugon. Elle le confirme. Il ne faut pas s'inquiéter. L'Organisation mondiale de la santé a notamment déclaré qu'il y avait un faible risque d'épidémie. Important. De nos jours, quand on entend parler d'infection, on pense à la pandémie de COVID-19, mais il ne faut pas s'affoler. Ici, on parle d'un virus très différent et, je le répète, très rare. Les experts interrogés par plusieurs médias s'entendent tous. Si ça s'est propagé sur le bateau, c'est fort probablement parce qu'il s'agit d'un endroit très petit, qui n'est pas aéré et où les gens sont souvent en contact. Et les autorités surveillent tout ça de très près. Si tes parents gardent de mauvais souvenirs de la pandémie, cette nouvelle les rend probablement nerveux. Maintenant que tu es bien au courant, rassure tes parents avec ce que tu as appris. 2 minutes and 2 minutes and 3 minutes and 4 and 5 minutes and 2 minutes and 6 and 2 minutes and 7 and 2 minutes and 38 and 8 and 9 and 9 40 here. SOS Timmy la baleine. Un texte d'Alice Goujon, paru le 11 mai 2026 dans les As de l'Info. Depuis quelques mois, l'Allemagne s'inquiète pour une baleine au comportement étrange. Surnommée Timmy, la baleine s'est échouée à plusieurs reprises, déclenchant chaque fois des opérations de sauvetage. Pour la tirer d'affaire une fois pour toutes, elle a été transportée sur une distance de 400 km pour être relâchée en pleine mer. Je te raconte ces mésaventures. Alors, mets ta veste de sauvetage, on se jette à l'eau. Timmy qui? La baleine à bosse surnommée Timmy est une baleine d'environ 4 ans et qui mesure presque 13 mètres de long. Ses mésaventures ont commencé le 3 mars quand elle s'est entortillée dans des filets de pêcheurs et s'est échouée dans le nord de l'Allemagne. Elle a été remise à l'eau, mais le 23 mars, elle s'est à nouveau échouée. Cette fois, c'était sur la plage de Timmendorfer. C'est ce lieu qui a inspiré son nom, Timmy. À partir de ce moment-là, des milliers de personnes ont commencé à suivre son parcours sur Internet. Pas de chance, quelques jours plus tard, elle reste à nouveau prisonnière d'un banc de sable. Cette fois, elle reste prise pendant plusieurs semaines. On s'inquiète pour elle et les experts pensent qu'elle pourrait mourir bientôt. On essaie tout pour la libérer. Faire des vagues, creuser le sable, gonfler des bouées pour la soulever, mais rien n'y fait. À court d'idées, les autorités décident d'arrêter les opérations de sauvetage malgré la grande déception du public. Mais Till Backhaus, le ministre de l'Environnement allemand, refuse de baisser les bras. Il autorise une dernière tentative pour sauver Timmy, financée par deux riches Allemands. Le grand voyage. Karin Walter-Mommert, propriétaire de chevaux de course, et Walter Gons, un multimillionnaire, organisent la mission de sauvetage pour ce pauvre mammifère marin. Leur plan? Libérer la baleine de l'île où elle s'est échouée. La pousser avec des coussins pneumatiques et la hisser sur un bateau, la transporter à 400 km de là et la relâcher dans la mer du Nord. Mais avant le grand départ, l'équipe de sauvetage remarque que la peau de Timmy est couverte de blessures. Alors, on la recouvre d'une pommade et de draps pour permettre à sa peau de cicatriser. En plus, Timmy est complètement exténué. Après tout, cela fait au moins 4 fois qu'elle s'échoue. Pour l'amener loin de la région, l'équipe de sauvetage veut hisser Timmy sur une barge remplie d'eau. Le 28 avril, des centaines de curieux se rassemblent sur la plage pour assister à l'opération. Heureusement, c'est un succès et son trajet vers la mer du Nord peut enfin commencer. La baleine à bosse est arrivée à cette destination le 1er mai. Timmy est alors libre de nager dans une mer beaucoup plus vaste. Le 2 mai, elle nageait vers l'Arctique. Mais oups! Le GPS qui transmettait sa localisation a arrêté de fonctionner. Résultat? Personne ne sait où elle se trouve actuellement. Bon, là, c'est assez. Maintenant, beaucoup d'experts critiquent l'opération pour amener Timmy en mer. Selon eux, les échecs successifs montraient qu'elle n'avait plus d'énergie et la relâcher en mer profonde ne pouvait pas l'aider. Ils auraient préféré étudier Timmy sur place pour savoir de quoi elle souffrait pour se retrouver dans un état pareil. Une vétérinaire qui participait au sauvetage a même quitté l'équipe en annonçant sur Instagram « Je refuse d'être tenu responsable et d'assister à de mauvaises décisions qui pourraient nuire à Timmy ». Elle affirme que ses instructions étaient ignorées et que le riche homme à la tête de l'opération passait plus de temps à se filmer avec la baleine que de l'aider. Quoi qu'il en soit, Timmy n'est toujours pas réapparu. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pensent que « pas de nouvelles, bonne nouvelle » et espèrent que Timmy est enfin saine et sauve au large. Et toi, aurais-tu aidé Timmy? Où penses-tu qu'elle se trouve maintenant? La loi sur les Indiens a 150 ans. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 8 mai 2026 dans les As de l'Info. L'année 2026 marque le 150e anniversaire de la loi sur les Indiens. Même si elle est très vieille, cette loi a encore un impact important sur la vie des Autochtones du Canada. Pour retracer son histoire et mieux la comprendre, j'ai parlé avec un spécialiste des enjeux autochtones, Alexandre Bacon. Il est lui-même Innu. Une loi créée pour contrôler. La loi sur les Indiens a été adoptée en 1876 par le Parlement canadien. À cette époque, le gouvernement canadien voulait contrôler davantage les peuples autochtones et leur territoire. Mais, bien qu'ils étaient les principaux concernés par cette loi, ces peuples n'ont pas été consultés. Le but de la loi sur les Indiens était de faire entrer les peuples autochtones dans la société canadienne jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul groupe de citoyens, explique Alexandre Bacon. Cette loi imposait de nombreuses règles injustes. Elle a servi à créer les réserves où plusieurs communautés ont été forcées de vivre. La loi limitait aussi l'accès à certains services. Par exemple, les Autochtones n'avaient pas le droit d'aller dans des hôpitaux réservés aux autres citoyens canadiens. Certaines règles étaient aussi sexistes. Par exemple, une femme autochtone qui épousait un homme non autochtone perdait automatiquement son statut d'indienne et devait quitter la réserve. Alors que ce n'était pas le cas pour les hommes autochtones qui épousaient une femme blanche. La loi sur les Indiens a aussi instauré le système des pensionnats autochtones. Jusqu'en 1996, des milliers d'enfants ont été forcés de quitter leur famille pour aller dans ces écoles, souvent loin de chez eux. L'idée était de couper la transmission. Qu'on ne puisse plus avoir la présence de nos parents pour nous transmettre la langue, nous transmettre la culture, précise Alexandre Bacon. Cette période très difficile a laissé des traces douloureuses jusqu'à aujourd'hui. Une loi encore en vigueur. Heureusement, certaines parties de la loi ont changé avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, les femmes autochtones qui se marient avec quelqu'un hors de leur communauté ne perdent plus leur statut et leurs droits. Mais la loi sur les Indiens existe toujours aujourd'hui. Selon Alexandre Bacon, cela a encore des conséquences concrètes sur la vie des Autochtones au Canada. Par exemple, le gouvernement fédéral garde beaucoup de pouvoir sur plusieurs décisions touchant les communautés. Si je fais un testament, je dois en envoyer une copie au gouvernement fédéral. Et la loi prévoit que le gouvernement peut modifier mon testament s'il le souhaite, même après ma mort, raconte-t-il. Ce n'est pas le cas pour les allochtones, c'est-à-dire les citoyens non autochtones. Et pour l'avenir? Plusieurs personnes pensent que la loi sur les Indiens ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Déjà, tu dois avoir remarqué qu'on n'utilise plus le mot « indien » pour parler des peuples autochtones. Mais pour Alexandre Bacon, il faudrait changer bien plus que le nom de cette loi. Si on change le nom sans changer le contenu, c'est encore la même réalité, dit-il. Selon lui, il faudrait plutôt remplacer cette loi par une nouvelle, écrite en collaboration avec les Premières Nations, pour mieux reconnaître leurs droits et leur donner plus de pouvoir sur leur territoire et leurs décisions. Selon toi, qu'est-ce qu'une loi respectueuse des peuples autochtones devrait contenir? Yeah, la, 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 la. entrevue avec Samy Benabed, le chef cuisinier de l'heure. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 12 mai 2026 dans les As de l'Info. La semaine dernière, une pluie d'étoiles est tombée sur le Québec. Des étoiles Michelin. Ce sont les récompenses les plus prestigieuses en cuisine. Pour un chef, en recevoir une, c'est comme recevoir un Oscar pour un acteur. Et parmi les chanceux cette année, on retrouve Samy Benabed, chef de l'Auberge Saint-Mathieu en Mauricie. Et ce n'est pas tout. Samy a aussi été désigné Jeune Chef Québec 2026 par Michelin. Ce touche-à-tout talentueux au plat éco-responsable a répondu à nos questions. Samy, ces prix que tu viens de recevoir, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une confirmation que j'excelle dans mon domaine, puis surtout que je m'épanouis dans ce métier-là. Dans les entrevues, tu dis que tu dois tout à tes parents. Pourquoi? Je suis né à Trois-Rivières, mais mes parents viennent du Maroc. Ils ont quitté leur pays et fait beaucoup de sacrifices pour nous, les enfants. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Mon père était livreur pour le restaurant Anticoq, mais on ne l'a jamais ressenti. Ils nous ont toujours encouragés à faire ce qu'on voulait faire, mes frères, mes sœurs et moi. Samy a créé un plat, la poule de soie Anticoq, en hommage à son père. Le poulet est recouvert de pétales de fleurs aux couleurs des restaurants Anticoq, rouge et jaune. Cette création lui a valu le prix du public en 2023 à la compétition Pellegrino Young Chef Academy à Milan, en Italie. As-tu toujours voulu être chef? Non. Tout m'intéressait. Au secondaire, il n'y a pas une année où j'ai fait la même concentration. Une année, j'étais en sciences, une autre en sport-études, une autre en plein air ou en langue. Je les ai pas mal toutes faites. Ça a été la même chose au cégep. Comment est arrivée la cuisine, alors? Je travaillais aussi en cuisine pendant mes études. Quand je suis parti à Montréal pour mon bac en philosophie, j'ai eu la chance de travailler dans de bons restaurants. Mon intérêt pour la cuisine a vraiment explosé. Tu n'as pas de formation dans une école de cuisine? Non. Après mon diplôme, je me suis inscrit à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, mais je n'ai pas aimé ça. J'avais l'impression d'apprendre plus dans les cuisines de restaurants. On dit que ta cuisine est nordique ou forestière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise les produits qui nous entourent et auxquels on a accès. Ça peut être des produits cultivés ici par des fermiers, dans notre climat nordique, mais aussi des choses qui poussent toutes seules dans les forêts. Les champignons, les herbes aromatiques, certaines fleurs ou pousses. Puis, il y a aussi les saisons. Ici, on n'est pas dans un pays où tout pousse à longueur d'année, alors il faut travailler en avance. On conserve ce qu'on récolte pendant l'été et l'automne pour avoir de la nourriture l'hiver. Je pense que les menus d'hiver sont ceux dont je suis le plus fier parce qu'on a moins d'ingrédients. Il faut être plus créatif. Une étoile verte? Depuis 2020, Michelin décerne des étoiles vertes aux restaurants remarquables qui accordent en plus une attention particulière à l'environnement en utilisant des produits locaux et en évitant le gaspillage, par exemple. Le restaurant de Samy, l'Auberge Saint-Mathieu, a reçu une étoile verte en 2025. 4 autres restaurants québécois ont obtenu cette étoile. Les plats de Samy sont de véritables œuvres d'art. Le plus beau compliment qu'on te fait à propos d'un plat, en fait, c'est de voir des gens en larmes après avoir goûté un plat, ça me touche énormément. Parfois, un goût leur rappelle un souvenir d'enfance. Quand ça arrive, je capote un peu. Tu es quelqu'un de très curieux. Penses-tu être chef toute ta vie? Je me verrais faire autre chose. J'essaie de suivre mon instinct. Pour l'instant, c'est la cuisine. En ce moment, je développe mon côté musical. Je ne pense pas que ça va devenir une carrière, mais c'est une autre façon de m'exprimer. J'aime beaucoup apprendre. C'est important pour moi. Question en rafale. C'était quoi ton plat préféré au primaire? Le couscous de ma mère, ça l'est encore. As-tu un ingrédient préféré? Les oignons et l'ail, c'est la base de tellement de choses. Un aliment que tu n'aimes pas? Le poivron cru. Mais cuit, j'adore ça. Toi, quel est le meilleur repas que tu as mangé de toute ta vie? Pour ou contre, laissez les pissenlits tranquilles. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 11 mai 2026 dans les As de l'Info. Psst, psst, psst. Ce pour ou contre a été publié pour la première fois le 20 mai 2024. Mais comme c'est à nouveau le temps des pissenlits, on a décidé de le mettre à jour. Le revoilà. C'est le printemps. Les oiseaux chantent, les arbres verdissent et on a rangé nos bottes d'hiver. Si la plupart des gens se réjouissent de voir la nature renaître, il y en a pour qui l'arrivée du beau temps est synonyme de chasse aux pissenlits. Cette mauvaise herbe divise. Certains veulent carrément l'éliminer. D'autres nous supplient de la laisser pousser afin d'aider les abeilles. Il y a même le défi pissenlit qui invite les gens à ne pas tondre leur pelouse durant tout le mois de mai. Plus de 100 villes au Québec y participent. Tu en penses quoi, toi? Avant de répondre, regardons ensemble les arguments pour et les arguments contre. Les pour. De la nourriture pour les abeilles. Les pissenlits sont parmi les premières fleurs à éclore au printemps. Ils sont donc une source d'énergie bienvenue pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs qui s'activent après l'hiver. Et comme il y en a beaucoup, les insectes n'ont pas à s'épuiser pour en trouver. C'est bon pour la nature. Une pelouse uniforme et verte comme un terrain de golf, ça n'existe pas dans la nature. Pour y arriver, il faut utiliser des engrais chimiques et des herbicides qui empoisonnent les insectes, les animaux et l'eau. Alors, disons bye-bye aux poisons et accueillons les mauvaises herbes qui favorisent la biodiversité. On sauve du temps. Faire la chasse aux pissenlits, ce n'est pas simple. Ils sont très robustes et difficiles à arracher. C'est une corvée sans fin, puisqu'ils repoussent rapidement. Pourquoi ne pas plutôt prendre ce temps pour embellir des plates-bandes ou cultiver un potager? Les contres, c'est laid et envahissant. Les pissenlits ne sont pas parmi les plus belles fleurs, et quand on les laisse aller, ils finissent par littéralement envahir le terrain en étouffant les autres plantes. Non, merci. Il y a d'autres moyens d'aider les abeilles. Il n'y a pas que les pissenlits qui aident les abeilles. On peut très bien tondre sa pelouse et aider les insectes. On n'a qu'à planter des arbres fruitiers ou des fleurs sur notre terrain. Les insectes y trouveront leur compte. On a le droit de faire ce qu'on veut sur notre terrain. À chacun ses goûts et ses envies. Si des gens n'aiment pas les pissenlits, ils ont le droit de les arracher. Ils sont chez eux, après tout. Les villes peuvent, elles, donner l'exemple et décider de ne pas tondre les pelouses de leur parc. En bref, pour, c'est de la nourriture pour les abeilles, c'est bon pour la nature, on économise du temps. Contre, c'est laid et envahissant. Il y a d'autres moyens d'aider les abeilles. On a le droit de faire ce qu'on veut sur notre terrain. Toi, es-tu pour ou contre laisser les pissenlits tranquilles? Une statue pour Mafalda, héroïne de BD. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 11 mai 2026 dans les As de l'Info. Elle a 6 ans, elle est féministe, mordue d'actualité et elle déteste la soupe. Depuis plus de 60 ans, cette héroïne de bande dessinée fait réfléchir et sourire les lecteurs. Et il y a quelques jours, une statue d'elle a été dévoilée à Montréal. Fais connaissance avec Mafalda. Qui est Mafalda? Mafalda est née en 1964 en Argentine, un pays d'Amérique du Sud. C'est le bédéiste Kino qui a imaginé cette petite fille un peu rebelle qui questionne tout. Du haut de ses 6 ans, elle essaie de comprendre le monde qui l'entoure et tout y passe. La politique, la pauvreté, les médias, l'environnement. Les réponses des adultes ne font pas du tout son affaire. Résultat, elle n'a vraiment pas envie de grandir. Kino a arrêté de dessiner Mafalda en 1973. Il est décédé en 2020, mais comme Mafalda le souhaitait, elle n'a pas vieilli. Ses réflexions ne se démodent pas et elle a encore des admirateurs partout dans le monde. Bienvenue à Montréal. Depuis le 1er mai, on peut s'asseoir à côté d'une très mignonne statue de Mafalda sur la rue Saint-Laurent à Montréal. C'est la propriétaire du café Espace Amalgame, Livia Magnani, qui a fait les démarches pour accueillir ce personnage qu'elle aime tant, en face de son commerce. On compte actuellement 18 statues de Mafalda dans le monde. Mais celle qui vient d'apparaître à Montréal est la première dans un pays où l'espagnol n'est pas la langue officielle. Comme Mafalda, Livia Magnani est née en Argentine. Son vœu pour sa nouvelle petite voisine? En entrevue à la CBC, elle a dit qu'elle aimerait que les gens prennent le temps de s'asseoir à ses côtés pour réfléchir à des choses importantes. Même si notre Mafalda est une statue, elle est quand même mobile. L'œuvre pourra être déplacée pour rendre visite à des écoles, des résidences pour aînés ou participer à des événements. Une belle vie pour une petite fille curieuse. Quel statut de personnage de bande dessinée aimerais-tu que ta ville accueille? C'était Gilbert. À une prochaine lecture!
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.